Tais-toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Non.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Fausses offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
le somali ou le burkini pour le corps des femmes. C'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info et il est un peu plus de 19h, on a quelques minutes de retard. Donc aujourd'hui dans ce Canu Info, nous allons tout d'abord vous passer un reportage sur un rassemblement qui a lieu lundi. Donc c'est le titre du reportage, c'est une salle de téléaudience de la Cour nationale de droit d'asile à Lyon.
Et puis on continuera immédiatement. Est-ce que j'ai un micro ouvert ? Je ne sais pas, je ne m'entends pas. Mais peut-être que si, on ne sait pas ou pas du tout. Non, que dalle, j'ai rien d'ouvert ? Oh, fais chier. Pardon. Excusez-moi, si vous m'entendez, on continuera ensuite avec Du bon côté des barbelés, qui est un reportage au CRA de Lyon-Saint-Exupéry.
Ensuite, on aura notre rubrique Laurent Fauquier, donc, et on vous parlera donc que le fameux Laurent est menacé par une enquête pour faux en écriture publique.
Et puis, par la suite, on fera un point sur l'utilisation des armes françaises dans la guerre au Yémen, puisque le gouvernement français continue de mentir.
Et enfin, on aura une grosse rubrique agenda. Et c'est parti pour ce Canu Info.
Attention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Et no border, no nation. On commence par vous faire écouter un documentaire sur une salle de téléaudience de la Cour nationale du droit d'asile à Lyon. En fait, c'est pas ça du tout, puisqu'on a un petit problème tout de suite, immédiatement, puisqu'elle dure 49 minutes, alors qu'elle devait durer seulement 7 minutes. On parle tout de suite au niveau du CRA de Lyon.
Jour après jour, de nouvelles barrières sont érigées en Europe. Face au flot continu de migrants, la Hongrie a d'abord élevé un mur de barbelés sur sa frontière avec la Serbie, sur 175 km.
L'image d'homme derrière des barbelés qui devrait être insupportable est en train de changer de polarité pour devenir une image de protection.
Le flux des réfugiés ne baisse pas et l'Europe se barricade chaque jour un peu plus.
Il y a 10 ans, c'est l'enclave espagnole au Maroc de Ceuta et Melilla qui avait édifié sa barrière pour décourager les migrants subsahariens de passer en Europe.
Être du bon côté des barbelés, c'est en même temps être contaminé, nécessairement, par ce qui se passe de l'autre côté.
On l'appelle corde du diable, écharpe du souvenir aux frontières brûlantes. Le fil de fer barbelé, outil agricole ingénieux, est devenu un outil très politique. Mais alors que l'image du barbelé évoquait jusqu'à présent le paysage délabré du no man's land ou les camps de concentration nazis et symbolisait à lui seul l'idée d'oppression et de violence politique, cette symbolique n'est-elle pas en train de changer? Car la crise internationale des migrants a fait réapparaître le barbelé dans notre paysage médiatique. Des frontières entre la Hongrie et la Serbie, entre la Turquie et la Grèce, entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. En tout, près de 235 km de clôture barbelée entourent la forteresse Europe. Quels sont les enjeux pour nos démocraties et pour nous qui sont du bon côté du barbelé? Rencontre avec Olivier Razac, philosophe et auteur d'une histoire politique du barbelé que nous retrouvons à Lyon, près de l'aéroport, pour une excursion au centre de rétention administrative, là où la République déroule ses barbelés. Alors là, donc, on est devant le centre de rétention administratif de Lyon. C'est vraiment juste à quelques coudées de l'autre côté de l'aéroport, juste en bordure d'autoroute.
Ouais. On est en bordure d'autoroute. Bon, c'est un no man's land, hein, par ailleurs. L'entrée dans le centre, c'est une impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de se trouver là et de venir voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, on ne croise évidemment personne. C'est la première fois que je viens, donc je découvre aussi... Bon, là, on ne voit pas les bâtiments principaux, puisqu'on voit essentiellement l'enceinte. Donc, il y a une première clôture assez légère dont les rabats sont déjà vers l'intérieur. C'est du grillage banalisé qu'on peut retrouver n'importe où, peint en vert, donc assez discret. Et du barbelé classique.
Ça, c'est un petit barbelé assez fin.
C'est le barbelé d'origine. C'est du barbelé très léger, un tout petit peu plus agressif que du barbelé agricole, puisqu'il a 4 barbes, alors que le barbelé peut en avoir que 2. Donc ça, c'est de la clôture extérieure. Et à l'intérieur, par contre, on voit évidemment on a une clôture beaucoup plus structurée, beaucoup plus agressive aussi. Même si elle reste relativement discrète, puisque c'est du grillage, hein, peint en blanc à la base. Par contre, il y a un rabat vers l'intérieur qui est fait avec des grilles hercées, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des pointes de herse rabattues vers l'intérieur, donc c'est évidemment là très dangereux. Et à l'intérieur de la clôture, vous avez des rouleaux de barbelés rasoirs, du concertina, qui est déployé sur tout le long, en hauteur. Ce qui est très classique, ce qui se fait aussi en prison. Voilà, donc toute la défense périmétrique, elle est à l'intérieur de la clôture. Ce qui fait que là, par exemple, entre les deux clôtures, pour se blesser sur les barbelés, il faut être reclus. De l'extérieur, vous risquez rien. Donc ça, c'est une première chose. Après, on ne voit pas l'intérieur du périmètre. On ne peut pas avoir de contact. Hein. J'ai pas indiqué non plus que la clôture intérieure, à l'intérieur du grillage, il y a des plantes. Il y a une haie de plantes, une haie vive. Hein. Avant, c'était ça, les clôtures classiques, qui empêchent de voir l'intérieur du lieu. Hein. L'opacité, c'est quand même ce qui permet de rendre les lieux discrets, et surtout l'opacité végétale. Donc, il devait y avoir simplement la première clôture au début. Moi, ce que ça m'évoque, si vous voulez, c'est que l'actualité du barbelé, elle est là, pour nous, pour les gens, les citoyens de ce pays. Elle est là, quoi. Elle n'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas en Hongrie, ou dans d'autres pays lointains, où on se dit ah, là-bas, ils mettent du barbelé, et toujours avec une idée. Moi, j'ai entendu ça, hein, les Hongrois, quand même, là, avec les migrants, en ce moment, ils sont brutaux. La preuve, ils mettent du barbelé. Alors, c'est pas faux, hein, cette brutalité, elle est vraie, mais en même temps, ça nous permet de détourner le regard, précisément, de notre usage de ces barbelés. Mais encore une fois, la fermeture par herse, elle est largement aussi violente que le concertina. Donc l'utilisation de systèmes de délimitation visiblement brutaux qui peuvent déchirer la chair ou voire tuer pour enfermer des gens qui en l'occurrence là ne sont pas des criminels, qui vont être en plus certainement renvoyés chez eux la plupart du temps vers des situations particulièrement difficiles. Donc la violence elle est dans l'enfermement mais elle est aussi dans le geste de renvoi, d'exclusion brutale qui va suivre. Et le barbelé, il est là, utilisé là pour ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il est le signe même de la violence politique et d'une violence politique extrême, où l'enjeu, c'est la vie et la mort. Donc cette violence politique extrême que nous exerçons, si on prend au sérieux l'idée de démocratie, puisque c'est bien au nom du peuple français que cette violence s'exerce, elle est très proche de nous. Elle est là, dès qu'on veut la voir, finalement, on peut la voir. Vous avez vu, c'est facile. C'est à la fois très difficile, puisque ce n'est pas indiqué. C'est à côté d'un hôtel, c'est discret, et en même temps, il suffit de s'approcher. Et de remarquer que ben, ça ressemble à un camp, et ben, c'en est un. Hein. C'est un camp d'enfermement et d'exclusion. Et c'est une violence qu'on exerce au quotidien, d'une manière très discrète.
Et si on s'approche pour essayer de voir, ce qui est incroyable, c'est qu'on les devine plus qu'on les voit vraiment, ces barbelés en forme de rouleau. On les voit, mais ça reste très discret quand même.
Le barbelé, contrairement à ce qu'on peut penser maintenant, nous on le reçoit quand même comme un objet violent. C'est pour ça qu'en général on le cache, surtout le barbelé rasoir.
C'est comme celui-là.
C'est donc plus des pics, des petites pics, des petites barbes justement. C'est des petites lames serties sur un fil, donc un fil plus gros, un fil plus solide, avec des lames qui peuvent avoir différentes formes, plus ou moins agressives, hein, qui coupent et qui déchirent. Mais de toute façon, même celui-là, qui est beaucoup plus agressif et qui, je le rappelle, est réservé aux hommes. Hein. Vous n'utilisez pas de concertina, de barbelé rasoir contre des animaux, c'est beaucoup trop dangereux. Mais ceci dit, vous parliez de la discrétion et le barbelé, malgré le symbole très normalement agressif qui lui est attaché, est d'abord singularisé par sa discrétion. Il est beaucoup plus discret justement qu'une haie vive, qui cache l'espace, que des murs en bois ou en pierre évidemment, ou qu'un mur d'enceinte ou qu'une forteresse. Et c'est un outil qui, hein, dans la prairie par exemple, ces trois discrets traits comme ça qu'on voit presque pas de loin, c'est une grande vertu pendant la Première Guerre mondiale devant les tranchées, puisqu'il est très peu visible dans le brouillard des combats. Il y a beaucoup de récits comme ça de poilus ou de soldats allemands qui tombent sur les barbelés sans les avoir vus. Puis il est dur à viser, même en termes de repérage aérien, etc. Donc sa discrétion a toujours été une vertu du barbelé. Sa discrétion et sa légèreté, ce qui permet de le déplier, de le poser très rapidement selon les besoins, de le déplacer, évidemment, les tranchées, c'est évident. Les camps de concentration ou d'extermination aussi. Ce sont des campements qu'on peut déplacer, modifier, agrandir, moduler et surtout qu'on peut faire disparaître. Un Treblinka, c'est un réseau de barbelés essentiellement avec des baraques au milieu de la forêt. Et une fois que le travail est terminé, disons, il a été détruit. Le terrain a été labouré. Évidemment, avec des murs, avec des fondations, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la discrétion et la légèreté du barbelé, on a toujours fait la force technologique. Sauf qu'évidemment, avec tous les événements où il a été utilisé, il a concentré dans sa forme une force symbolique très forte. C'est-à-dire qu'il suffit de voir une barbe de barbelé pour tout de suite pas forcément penser aux champs, prairies, etc., mais à la violence politique, quoi, extrême, au camp, quoi, au camp. Mais manifestement, ce rapport direct à cette violence, elle s'estompe de telle manière qu'on voit réapparaître du barbelé dans des lieux où ce n'était certainement pas possible, pas imaginable. Ça reste utilisé d'une manière, comme vous le voyez là, discrète, à l'intérieur, pas sur la voie publique d'une certaine manière. Mais enfin, ça peut être utilisé parfois maintenant autour de hangars de stockage, dans des lieux pas si retirés que ça. L'obsession de sécurité arrive à un point tel que le prix à payer pour utiliser ce genre de protection contre l'autre est en train de baisser, de devenir plus acceptable. Après, il faudra toujours que les gens se rappellent qu'être du bon côté du barbelé, comme on est aujourd'hui, c'est aussi un sentiment très désagréable. Parce que si on est du bon côté du barbelé, ça veut dire qu'il y en a qui sont du mauvais côté. Et évidemment, moi, c'est un truc qui me frappe énormément. La vraie question actuellement, c'est pas tant est-ce que le barbelé est de retour ou pas. C'est le moment où il va pouvoir être utilisé d'une manière explicite. C'est-à-dire que on va pouvoir dire « on met des barbelés pour vous ». Et que ça deviendra un discours explicite et souhaité. Parce que pour l'instant, vous voyez, voilà, c'est quand même caché, quoi. On ne dit pas « on met des barbelés », on dit « on renvoie les gens chez eux en avion », etc. Mais là, ça commence à s'inverser et il va devenir vendeur d'évoquer dans le discours politique ce type de violence-là. Et je ne fais pas forcément référence à des partis extrêmes, même si bien sûr, après le premier tour, on peut y penser. Mais je pense que si on est arrivé déjà à ce niveau de violence-là, ce n'est pas avec des partis extrêmes. Hein. Des partis dits de gauche le font sans difficulté. On est dans une démocratie libérale, mais où la protection, la sécurité et l'obsession de cette sécurité permettent d'exercer une violence de gestion. Donc on dit qu'on chasse les migrants, on le fait d'une manière gestionnaire. Et donc on arrive à jouer un peu sur tous ces tableaux, c'est-à-dire la douceur libérale et en même temps la dureté répressive, de telle manière que ce lieu peut exister sans que ça pose de problème à personne, ou à pas grand monde.
Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable.
C'est devenu le symbole de l'oppression.
Voilà, sauf que je pense qu'il s'estompe. Pendant tout un temps, il y a eu toute une rhétorique trompeuse, hein, mais malgré tout, une rhétorique de la virtualisation, avec le CIVE, par exemple, au sud de l'Espagne.
Le CIVE, c'est
un système de détection des embarcations, essentiellement dans la Méditerranée, sur les côtes espagnoles, avec des senseurs, des caméras infrarouges, des centres de surveillance et des patrouilles qui interviennent en fonction des éléments qui sont donnés, avec des radars. Donc c'est un système virtualisé de contrôle, de surveillance des côtes, mais avec un discours aussi de « bon, c'est pas visuellement violent. Vous pouvez aller sur les plages tranquilles, hein. Vous n'êtes pas obligé de barbeler les plages. Ça permet d'avoir une rhétorique qui euphémise encore une fois la violence qu'on exerce. Ça permet aussi de ne pas gêner les citoyens qui sont du bon côté. Voilà, on ne va pas leur mettre des barbelés pour qu'ils gâcheraient leurs vacances. Sauf que quand le discours de la virtualisation, de l'euphémisation, de l'édulcoration va disparaître, va se montrer comme hypocrisie, comme paravent, et que un autre discours va s'installer en disant « mais pas du tout, non seulement on va vous protéger, mais on va vous montrer qu'on vous protège. Et pour vous montrer qu'on vous protège, bah, le barbelé, ça vous montre qu'on vous protège. » Vous voyez bien, ces gens-là, là, ces hordes, qui sont animalisés par le fait même de les mettre derrière des barbelés, vous voyez bien qu'ils sont derrière. Et vous êtes de l'autre côté. Vous êtes du bon côté. C'est-à-dire que l'image d'homme derrière des barbelés, qui devrait être insupportable, est en train de changer de polarité pour devenir une image de protection. Cette polarisation, elle est absolument redoutable. Elle est en train d'être mise en œuvre d'une manière majeure, même par ceux qui ne voudraient pas le faire. Et elle est porteuse de violences politiques extrêmes, évidemment. Qui veut vivre du bon côté des barbelés ? Être du bon côté des barbelés, c'est en même temps être contaminé, nécessairement, par ce qui se passe de l'autre côté. Je ne peux pas être tranquillement du bon côté des barbelés. C'est pas possible. Bonsoir.
Bonjour.
J'ai des choses très importantes à vous dire. Je viens de faire une visite comme un condamné à mort.
Moi, je m'appelle Michel François, je suis membre de Réseau Éducation Sans Frontières. J'ai visité un jeune né en RDC qui, au moment où il a fait sa demande d'asile, a été interpellé parce que ses empreintes ont révélé qu'il était arrivé ici avec un passeport angolais à un autre nom. Depuis, il a fait 3 mois de prison. Et aujourd'hui, il doit être expulsé vers l'Angola, qui n'est pas son pays, où il risque d'être emprisonné, comme détenteur d'un faux passeport angolais. Et c'est un garçon de 18 ans qui a été arrêté après avoir fait sa rentrée scolaire le lendemain de sa rentrée scolaire. La semaine dernière, une jeune fille, Cynthia, même chose, au moment de sa demande d'asile, a donné ses empreintes, a été confondue pour avoir un passeport angolais, a été expédiée mercredi dernier vers l'Angola. Et la dernière fois que Cynthia nous a appelés, elle a appelé justement Patty, qui va être expulsée aujourd'hui, et elle lui a dit « ils veulent me mettre en prison ». Et depuis, on n'avait plus de nouvelles d'elle. 17 ans et demi, elle avait, elle. Et en prison à Corba, pendant 2 mois, elle avait vu un psychiatre qui a délivré un certificat médical disant que cette jeune fille souffrait de stress post-traumatique et qu'il y avait un danger de suicide pour elle. À la prison, le psychiatre atteste de ça. Il n'empêche qu'à la sortie de prison, elle est menée ici au CRA et que malgré de multiples crises de nerfs, elle n'est pas soignée et elle est expédiée vers l'Angola, qui n'est pas son pays, à 17 ans et demi. On a fait beaucoup de pétitions, beaucoup d'adresses au préfet. On a été reçus à la préfecture vendredi dernier par le directeur de cabinet du préfet du Rhône. Mais on a bien vu qu'il n'y avait rien à en attendre. Et ils ne veulent pas discuter de ça. Hein. Aucune clémence, aucune mansuétude du côté de la préfecture, au contraire.
Il y a un pouvoir qui s'exerce là, qui est en rapport avec ce qui légitime les États modernes, c'est-à-dire une certaine forme de protection de la population vulnérable, qu'il faut protéger d'autres corps, qui sont des corps qui nous menacent, sur un mode, hein, métaphoriquement, essentiellement médical. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit en non-contact, et vous voyez bien le dispositif là. Il faut se rendre compte que c'est incompréhensible, cette règle d'étanchéité. Si on ne comprend pas tout l'aspect de biopolitique qu'il y a derrière ces dispositifs, biopolitique qui est une forme de légitimation majeure des formes de l'État moderne et une légitimation qui n'est pas démocratique. Parce que la biopolitique, c'est la légitimation justement médicale, biologique, corporelle, animale de la politique. Et nous, quand nous voulons être protégés de cette manière-là, nous sommes protégés comme des corps. Nous sommes protégés comme du bétail. pas comme des citoyens. Ça ne protège pas des citoyens de cette manière-là, de la même manière qu'on n'enferme pas des citoyens de cette manière-là. Ça, c'est un lieu qui est un lieu, c'est une machine. Voilà, c'est un lieu de gestion. Donc, évidemment, pour des citoyens, c'est gênant, cette histoire. Pour les corps, ça ne l'est pas. Pour les corps inquiets, voire angoissés maladivement, comme on est et comme on nous configure, il suffit de faire un lieu comme ça pour que se sentir menacé. Hein, il suffit que des militaires patrouillent avec des FAMAS pour se dire, bah oui, le danger est là. Je ne dis pas que c'est sur la base de rien, hein, puisqu'il y a des violences qui s'exercent. Mais évidemment, il ne s'agit plus de chercher la cause politique, historique de ces violences. Et c'est en ça aussi que le barbelé, évidemment, est un symbole très important. Il révèle la dimension biopolitique, c'est-à-dire animale, de cette gestion. C'est en train de se faire. On va basculer d'époque. Peut-être. Peut-être.
Basculement d'époque en cours sur les ondes de Radio Canu, la plus bordélique des radios. On a un peu perturbé nos programmes pour reprendre le contrôle des micros, reprendre le contrôle de la table de mixage. On est de retour et donc on a fait un petit détour du côté du CRA sur un documentaire de France Inter que Radio Parleur a emprunté à France Inter et que Radio Canu, le Canu Foudiondry, emprunte. Radio Canu est la plus voleuse des radios. Néanmoins, on reste dans cette thématique puisqu'on va vous parler tout de suite de ce qui se passe au tribunal administratif de Lyon où se met en place une salle de téléaudience, c'est-à-dire qu'on essaie finalement de ne plus envoyer les gens directement devant un juge, mais de passer par de la vidéo. Et il y avait un rassemblement ce lundi 25 mars au tribunal administratif de Lyon. On écoute tout de suite, cette fois c'est un pur documentaire Canu Info du vendredi.
Bonjour, alors on est au tribunal administratif, il y a de nouveau un rassemblement devant la salle d'audience qui sert aux audiences de la CNDA. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe ce matin ?
Oui, on est surpris de constater à Lyon l'ouverture d'une salle d'audience où il est noté au-dessus de la porte CNDA pour Cour nationale du droit d'asile. Salle d'audience qui est vide, sans juge, puisque les juges sont restés tranquillement à Paris, ayant envoyé un interprète de Paris sur Lyon, alors que le demandeur d'asile est lui-même à Paris avec son avocat. On voit bien l'absurdité de la situation.
Et comment est-ce qu'il justifie d'ailleurs le fait d'envoyer un interprète à Lyon alors que tout le monde est à Paris ?
La Cour a convoqué par visio, donc c'est une audience dématérialisée. Et le requérant, lui, a bien prévenu la Cour qu'il serait à Paris. La Cour, visiblement, n'en fait qu'à sa tête et envoie l'interprète là où le requérant n'est pas.
Et actuellement, il y a une suspension d'audience.
Suspension d'audience, puisqu'il semble que des discussions soient en cours entre l'avocat du requérant qui est sur Paris avec son requérant, demandeur d'asile, et puis la présidente de la Cour nationale du droit d'asile.
D'accord. Et aujourd'hui, je crois que toutes les affaires n'ont pas été renvoyées. On a vu quelques-unes donc, qui l'ont bien été, et puis d'autres qui sont prévues aussi pour aujourd'hui.
Oui, l'audience est prévue avec plusieurs affaires, comme les audiences habituelles sont prévues avec plusieurs affaires sur Paris. Il semblerait qu'un ou deux avocats envisagent de plaider, et ce qui pose évidemment une difficulté au regard de la nature du mouvement qui est mené par l'ensemble de la profession.
Et comment ça se passera du coup quand l'avocat va arriver avec le requérant ? Est-ce que l'idée c'est quand même de faire un rassemblement dans la salle ? Est-ce que c'est justement de laisser la personne faire l'audience sans la gêner ?
Chacun est libre de son mode d'action. Restera à savoir si le confrère maintient sa volonté de plaider contre l'avis de l'ensemble du barreau et du bâtonnier qui fait le déplacement aujourd'hui.
On a donc eu notre réponse assez rapidement. L'avocat, qui est en fait une avocate, souhaite bien plaider malgré la contestation nationale. Alors, pour rappel, la vidéo audience, ce sont des juges à Montreuil, donc dans la Cour nationale du droit d'asile, qui ont devant eux une caméra. Et à Lyon, au tribunal administratif, une petite salle où se trouve une greffière. Et donc, il y a au mur deux grands écrans avec enceinte et micro. Sur un des écrans, on voit ce qui est filmé dans la salle d'audience à Lyon. Et sur le deuxième écran, on voit les juges à Montreuil. Alors, si on entend ce qui est dit assez distinctement, on voit par contre assez mal les visages des personnes et puis le cadrage est aléatoire. Et puis on peut ajouter aussi que le fait de se voir sur un écran peut être assez perturbant quand on doit soi-même parler de ce qu'on a vécu, et notamment de violences ou des raisons qui nous ont amenés en France. Alors, il y a, comme les barreaux du coup des villes test, qui sont Lyon et Nancy, mais aussi d'autres barreaux au niveau national, le Conseil national des barreaux, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, des médecins intervenant en droit d'asile, le défenseur des droits, des magistrats, tout ce beau monde s'oppose fermement à ces audiences et dénonce cette procédure qui va impacter de manière très négative les droits des demandeurs et demandeuses d'asile dans une procédure où la conviction intime du juge est fondée principalement sur le récit et les explications données par la personne. Et donc, dans une procédure où l'oralité des débats est primordiale, il est essentiel que les demandeurs et demandeuses d'asile soient physiquement présents devant les juges, à qui il appartient d'apprécier sa crédibilité, ce qui semble impossible derrière un écran. À 10h30, donc, l'audience commence, et cette fois-ci, de nouveau, problème d'interprétariat. L'interprète est à la CNDA, donc à Montreuil, et le demandeur d'asile à Lyon. Des avocats présents dans la salle soulèvent l'irrégularité pour demander le renvoi de l'audience, car les deux personnes doivent se trouver au même endroit. Mais la juge refuse et demande le huis clos, en espérant commencer l'audience tranquillement. Sauf que les soutiens sortent et font du bruit devant la salle d'audience en chantant des slogans. Et les avocats et les avocates sont, elles et eux, restés dans la salle d'audience. Et donc, il commençait à y avoir un joyeux bordel qui se met en place. Ça fait même sortir le président du tribunal de son bureau, qui descend et nous engueule comme des enfants, et puis menace d'appeler les flics. Bon, au bout d'un certain temps, les avocats et avocates ressortent de la salle et l'une d'elles nous explique ce qui vient de se passer. Il y a eu une audience qui vient d'avoir lieu en huis clos. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé ?
Oui, alors en fait, on a bloqué l'audience. On a empêché à ce que l'audience ait lieu en faisant beaucoup de bruit. Et est intervenu le bâtonnier de Lyon qui était au moment de l'audience en réunion avec la présidente de la Cour nationale du droit d'asile. Et donc le bâtonnier de Lyon, plusieurs bâtonniers de France et notamment le bâtonnier de Paris étaient présents dans la salle et nous ont indiqué qu'ils sortaient d'une réunion avec la présidente, qu'une prochaine réunion allait avoir lieu mercredi avec la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, qui demandait à la présidente qui tenait l'audience de renvoyer les affaires. Et il a également rappelé toutes les motions qui ont été votées par le Conseil national des barreaux, par les différents barreaux, à la consoeur de Besançon pour lui dire qu'il ne fallait pas que l'audience ait lieu, qu'il y ait une position unanime de la profession et qu'elle n'avait pas à plaider ce dossier, sachant que ce n'était pas dans l'intérêt de son client et que ce n'était pas non plus dans l'intérêt de la profession.
Et surtout qu'en plus, il y avait une histoire de traducteur qui était à Paris,
oui,
et le client
on lui a,
à Lyon.
Effectivement, l'interprète était à Montreuil, alors que c'est un interprète dans une langue où nous savons qu'à Lyon, nous avons des interprètes qui sont très bien compétents dans cette langue. Donc la Cour nationale du droit d'asile ne rencontrait aucune difficulté à ce qu'un interprète soit convoqué à Lyon aux côtés du justiciable, ce qui est prévu par la loi, ce qui est une obligation par la loi.
Et donc les audiences de cet après-midi, elles sont renvoyées. Est-ce que c'est que les audiences avec cette avocate-là ou est-ce que c'est toutes les audiences ?
Non, toutes les audiences sont renvoyées.
Très bien. Et l'audience de ce matin qui a été suspendue, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors à 10h30, lorsqu'elle a appelé son affaire de 10h30, elle nous a expliqué que l'affaire de 9h n'était pas renvoyée mais qu'elle était suspendue et qu'on verrait si oui ou non elle serait maintenue. Mais vu que là, le bâtonnier de Lyon a demandé à ce que toutes les affaires soient renvoyées, la présidente a plié. En fait, elle a vu la contestation, qu'on faisait quand même beaucoup de bruit et que ça allait être compliqué, ne serait-ce que pour la sérénité de l'audience, de tenir cette audience.
Du coup, il faut revenir à chaque audience et faire autant de bruit à chaque fois.
Eh oui.
Et oui, il va falloir faire du bruit aux audiences à Lyon et ailleurs, parce que c'est toujours autant la cata avec ces nouvelles téléaudiences qu'a inventé récemment la justice. En attendant, on a toujours des bugs techniques à Radio Canu, mais tout va bien. On revient avec un grand classique du Canu Info du vendredi. On va parler d'un certain Laurent.
Qu'est-ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région ?
Vauquier.
L'assistana est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. L'assistana est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez de nous avoir rejoint. Mais évidemment, tout de suite, comment vous vous sentez ce soir ?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, WIFI assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme ? Quelle ferme ?
À la ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con ?
Et oui, effectivement, Laurent Wauquiez est de retour dans l'actualité. Et qu'est-ce qui se passe cette fois avec cette France qui retrouve ses valeurs ? Eh bien, elle retrouve une fausse valeur puisque Laurent Wauquiez est menacé par une enquête pour faux en écriture publique. Alors, cette affaire pourrait s'avérer très embarrassante pour Laurent Wauquiez. Selon les informations de Mediacité, donc Média Local, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lyon pour faux en écriture publique à la suite de la réécriture d'un amendement voté en séance sur le bio dans les cantines. Plusieurs auditions, des agents mais aussi des élus, ont déjà eu lieu et la direction interrégionale de la police judiciaire prend le sujet manifestement très au sérieux. En effet, dans le cadre du plan Marshall tel qu'il l'a qualifié pour les lycées de la région, l'opposition avait réussi à faire passer un certain nombre d'amendements lors de l'assemblée plénière du 29 septembre 2018. L'un de ces amendements, le 52, porté par la chef de file des écolos, Monique Cosson, concerne les cantines scolaires dans les lycées, une compétence qui est donc régionale. L'amendement, qui a été voté à l'unanimité moins une voix, fait préciser dans un alinéa que, je cite, « le plan d'action transversale instaure désormais une gestion régionale, bio, locale et de saison de la restauration dans les lycées ». Alors ça pourrait ressembler à une sacrée victoire pour les égolos qui n'avaient jusque-là rien obtenu sur le sujet, surtout pas de Laurent Wauquiez, dont on connaît l'amour de la nature et de la protection de l'environnement. En séance, en effet, à la surprise de la vice-présidente chargée des lycées, qui s'appelle Béatrice Berthoux, qui avait demandé de rejeter cet amendement sur le bio, en conformité avec la politique régionale, eh bien Laurent Wauquiez, lui, l'a approuvé sans retenue en déclarant « Je trouve que ça correspond tout à fait à notre politique et c'est pas mal de le préciser ». Alors, il allait un peu vite en besogne, Laurent, parce que finalement, il s'est rendu compte, ce président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que avoir toujours pris soin de ne pas fâcher la FNSEA dans la région et de prendre soin de ses petits amis de la FNSEA, eh bien, il s'était pas très bien rendu compte que ça les arrangeait pas beaucoup. Et c'est pour corriger cette bévue que le texte qui a été soumis à la préfecture deux semaines plus tard, selon la procédure de vigueur, hein, donc on vote d'abord au conseil régional puis on soumet à la préfecture, a été modifié. En tout cas, on peut poser cette question. Après, le mot bio a en effet été rajouté une précision de taille. La conversion au bio dans la région scolaire se fera en effet dans la mesure du possible. Ce qui change beaucoup de choses. Autant dire que la précision, cette précision dans la mesure du possible, vide complètement de sa substance l'amendement adopté. Et de manière réécrite, il devient approvisionnement régional bio dans la mesure du possible, local et de saison de la restauration des lycées. Le problème, c'est pas tellement que ça a vidé de sa substance, mais c'est que cette réécriture pourrait être qualifiable pénalement de faux en écriture publique, ce qui est quand même une infraction passible, attention Laurent Wauquiez, d'une grosse amende et surtout 10 ans d'emprisonnement, voire 15 ans, lorsqu'elle implique, comme Laurent Wauquiez, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, je cite, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Alors pour être qualifié de la sorte, selon les articles, on s'en fiche un peu des numéros, il faut que l'écrit concerné ait une valeur probatoire, qu'il y ait une altération de la vérité préjudiciable et intentionnelle. Et c'est là-dessus que sans doute va se jouer la bataille juridique. Au cabinet de Laurent Wauquiez, tout en dénonçant une instrumentalisation politique de l'affaire, on ne les reprendrait pas à utiliser ce genre d'argument, on reconnaît qu'il y a quand même eu un dysfonctionnement interne. Sans avoir précisément identifié l'origine de ce dysfonctionnement, le cabinet de Laurent Wauquiez pointe du doigt l'administration. En clair, ce qu'il raconte, c'est qu'aucune consigne politique n'aurait été donnée de réécrire l'amendement en question, donc c'est-à-dire que l'hypothèse que nous posions au début de cette brève serait fausse. Il précise, le cabinet de Laurent Wauquiez, nous attendons les résultats de l'enquête. Et cette réécriture, disent-ils, ne relève en aucun cas d'une intention malveillante. Alors peut-être que cette réécriture aurait eu lieu, eh bien, pour parler d'un terme anciennement usité, à l'issue du plein gré du président Laurent Wauquiez. En somme, l'issue du plein gré, évidemment, une référence au cyclisme. On vous passe tout de suite un morceau sur la livraison à vélo.
Putain,
j'en ai marre de me faire chier assis sur ce muret à regarder les camions de tomates qui vont à Marmande. Depuis le temps que je glande avec ces connards de potes qui dans la vie ne veulent pas aller plus loin que Agen, je me dis que je devrais songer à élaborer un vrai projet. J'ai pas envie de ramasser les abricots, j'ai envie d'un truc moderne genre 2.0. Mais je vais pas aller non plus jusqu'à Bordeaux, je me perds tout le temps là-bas, je trouve même pas le métro. Du coup, ambition, création, innovation, je vais livrer de la graille en vélo, révolution, tout en restant à la maison. Alors feu, je vais direct au Décathlon de Agen en bagnole pour acheter un bitouine et des planches chevrotines pour la pause aussi, on sait jamais. Appli installée sur mon iPhone, le 7, ouais, que j'ai commandé sur Amazon. Moderne, avec cubisotherme, casque, support de téléphone et même un jersey. Je sais même pas ce que c'est. Ça y est, c'est parti, j'ai déjà un shift. Ha, tu sais pas ce que j'ai, un shift tocard, c'est moderne. Moderne. Shift à Montaigne, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à Montaigne, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'irai après la pêche. Bon, concrètement, c'est vrai, c'est un peu loin. Mais je livre 4 pots de carbure, ça se conserve bien. Direction le 82, ouverture transrégionale vers le Tarn-et-Garonne, la garbure est gersoise, interaction, diversité, mondialisée. Valorisation du local, un peu comme une baston entre voisins à la buvette du bal. Pour rester en avance sur mon temps, c'est bien simple, je pédale vénère. Je vais de l'avant sans jamais me retourner, de toute façon ici, y'a rien derrière. Arrivé à l'Erac, je prends le virage, toujours en avance sur mon temps. Mais quand tu prends un virage en avance sur ton temps, en fait tu prends pas le virage, tu tournes avant. C'est prouvé mathématiquement. Je ramasse mon vélo, y'a pas de casse dans les pots, je me suis pas fait de bobo, tant mieux, je suis pas assuré. Moderne. Moderne. Shift à Montaigne, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. J'ai un shift à Montaigne, ça tombe bien, c'est la dèche. Mais comme je capte pas la 4G, je me repère avec Golfèche. C'est moderne, mais putain.
On écoute actuellement en direct sur Radio Canyon Astaphor Mods. Astaphor Mods, un magnifique groupe qui résume ce qu'est le shift. Alors un shift, c'est une livraison à vélo. Ça nous permet de passer une petite dédicace à tous les livreurs à vélo qui travaillent pour Deliveroo, Uber ou n'importe quelle autre boîte de salopards, ou alors qui essaient de bosser pour leurs concurrents locaux. Eh bien, un gros gros soutien quand vous pédalez dans les pentes de la Croix-Rousse pour monter tout en haut. C'est moderne et critiquable. En attendant, nous, on va passer à la rubrique suivante tout de suite.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Et dans la rubrique internationale du Canu Info ce soir, on vous parle de quoi ? On vous parle finalement de la France, puisqu'en effet, la France s'exporte, n'est-ce pas ? Ça fait aussi partie de l'international. On va vous parler ce soir de l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. En effet, en poursuivant ces ventes d'armes utilisées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans leur guerre au Yémen, le gouvernement actuel prendrait-il le risque de violer les engagements internationaux de la France ? Si la ministre des Armées continue de le nier, les preuves du contraire s'accumulent avec les récentes révélations d'un groupe de médias allemands et internationaux. Pire encore, le gouvernement français a fait pression sur l'Allemagne pour une levée de l'embargo sur les armes afin que les exportations d'armes de fabrication française et allemande puissent reprendre rapidement. Alors, des armements français sont-ils utilisés dans le conflit yéménite ? Cette guerre, finalement peu médiatisée, dont on vous parle quand même relativement régulièrement sur Canu, s'est transformée en conflit régional avec l'intervention, il y a 4 ans de cela déjà, d'une coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Et cette guerre, elle a déjà fait des milliers de morts civiles et elle menace surtout la survie de 3 millions d'enfants souffrant de malnutrition. Elle oblige encore une grande partie de la population à dépendre de l'aide humanitaire. En gros, au Yémen, c'est très compliqué à cause de ce conflit. Pour autant, Florence Parly, donc la ministre française des Armées, a rappelé que, je cite, le 20 janvier 2019, nous avons encore récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite.
Alors, une enquête menée par un groupe de médias allemands et internationaux, publiée fin février, montre pourtant que des armements français et allemands vendus aux pays membres de la coalition en guerre, en particulier donc à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, sont bel et bien utilisés sur le terrain de la guerre yéménite. Le collectif de médias a visionné les images du conflit qui circulent sur les réseaux sociaux, ainsi que les images satellites via les services cartographiques en ligne. Les journalistes ont constaté que l'armée saoudienne a installé à la frontière avec le Yémen des batteries d'artillerie de type César. Ces canons longue portée sont fabriqués par le groupe français Nexter et équipés de châssis produits par Mercedes-Benz. Sur des vidéos, on voit des César tirés avec une portée de plus de 40 km. Les obusiers peuvent tirer sur le territoire du Yémen depuis cette position, écrivent donc les journalistes sur le site du collectif German Arms. Et donc, entre 2010 et 2015, l'entreprise française Nexter a livré plus de 100 dispositifs d'artillerie de ce type à l'Arabie Saoudite. Le collectif a aussi retrouvé la trace des chars lourds français Leclerc, également fabriqués par Nexter, vendus aux Émirats Arabes Unis. Grâce à l'analyse d'images vidéo et satellites de 2018, German Arms a pu localiser deux chars Leclerc au Yémen, à Aden et Al-Kaouka. Bref, entre 1984 et 2010, la France a livré plus de 400 chars Leclerc aux Émirats Arabes Unis.
Donc le gouvernement français prétend qu'il n'y a pas d'armes françaises au Yémen. Pour autant, il n'y a pas que des chars, comme on vient de vous le raconter, puisqu'en effet, le site German Arms documente aussi l'implication des avions militaires de transport et de ravitaillement fabriqués par Airbus. Le modèle que Airbus a exporté, notamment en Arabie Saoudite, qui sert au Yémen, est produit par le groupe aéronautique européen, est en grande partie fabriqué sur le site de Toulouse. Au moins 6 avions de ce type ont été livrés à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis entre 2011 et 2015. Alors, les journalistes du consortium rappellent que, selon les données de Nations Unies, des milliers de civils ont été tués par les attaques aériennes saoudiennes au Yémen. En début de semaine dernière, Mediapart a aussi révélé comment l'entreprise française Naval Group, donc ce qui était avant la DCNS, assure la modernisation de navires militaires saoudiens, alors même qu'un blocus naval affame la population yéménite. La collaboration se cache de moins en moins bien entre la France et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis figurent aussi depuis des années parmi les plus gros clients des exportations d'armements lourds français. La monarchie saoudienne est le deuxième plus gros client de la France, derrière l'Inde, il faut le préciser, sur la période 2008-2017. Et en dépit des déclarations de la ministre de la Défense, les exportations n'ont pas cessé depuis le début de la guerre au Yémen. En effet, en 2017 encore, alors que les conséquences humanitaires dramatiques du conflit sont déjà évidentes, les industriels français ont livré pour plus d'1,3 milliard d'euros d'armement à l'Arabie Saoudite.
Et fin 2018, l'Allemagne a décidé de suspendre pour plusieurs mois ses exportations d'armes à l'Arabie Saoudite suite à l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Ce moratoire devait se terminer le 31 mars. Le gouvernement allemand vient de décider de le prolonger pour 6 mois après des mois de désaccord entre le Parti social-démocrate et le Parti conservateur, tous deux membres de la coalition au pouvoir. Le gouvernement français a, lui, fait pression pendant des semaines sur l'Allemagne pour reprendre les exportations coûte que coûte. Nombre de systèmes d'armement exportés contiennent des équipements des deux pays, comme pour les chars Leclerc et les canons César. Je sais pas pourquoi je dis César depuis tout à l'heure, en fait, parce que c'est pas César, mais... Caesar.
Caesar, mais je pense que ça se prononce César.
Ouais.
Comme la salade. Pardon.
L'autorisation des deux gouvernements est donc nécessaire pour les exporter. Et Paris semble prêt à tout pour y parvenir. Les exportations d'armes françaises se sont rarement aussi bien portées qu'aujourd'hui. Et malheureusement, alors que le gouvernement actuel n'en finit plus d'affirmer sa tendance autoritaire, voir ses exportations se réduire semble de plus en plus illusoire.
De plus en plus illusoire, et peut-être que ça vaudrait le coup que nous, militants et militantes de gauche et anarchistes, on se remette un peu à l'antimilitarisme qui travaille nos sociétés. En attendant, ce soir, on continue ce Canu Info bancal avec un agenda un peu chargé.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et donc c'est l'agenda du Canu Info du vendredi. Et on commence tout de suite avec un truc qui se passe maintenant, à l'instant, qui est un apéro acoustique qui se déroule à l'atelier des canulars où il y a des chansons anarchistes et traditionnelles italiennes. Ces chansons, vous avez peut-être pu les découvrir sur les ondes de Radio Canu tout à l'heure, puisque les De Soda Sisters, un groupe de trois copines toscanes, sont venus présenter leur musique sur les ondes de la radio. On les retrouve tout de suite à l'atelier des canulars et surprise, surprise, vous pourrez aussi y rencontrer eh bien, vos animateurs préférés du Canu Info du vendredi.
Et oui, tout à fait. Et du coup, demain, il y a quoi ? Alors, il y a aussi un événement Radio Canu, puisque Héloïse Bouton, donc Madame Rap, sera sur les ondes de la radio. Donc ça va se passer entre 14h et 16h, et ça sera une interview exclusive. Et ça se passe dans le cadre du printemps libertaire qui du coup d'ailleurs va commencer, enfin la soirée de lancement a lieu demain.
Ouais, c'est demain le printemps libertaire, vous pouvez trouver toutes les infos sur Rebellion et sur le site du printemps libertaire. Et Madame Rap, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, c'est un super site web qui documente finalement le rap fait par des femmes et aussi beaucoup dans des logiques féministes.
Et du coup, toujours demain, vous pourrez aller à Terre des Livres donc, à partir de 15h, puisqu'il y a une rencontre avec Alain Russiaux autour de l'ouvrage « Les communistes et l'Algérie ». Donc voilà, donc, si vous voulez aller discuter de tout ça et découvrir ce bouquin, c'est Terre des Livres, donc c'est rue de Marseille, je ne me souviens plus du numéro exact.
C'est en gros au sud de la rue de Marseille, pas très loin de la rue de Chevreul. Demain, à peu près à la même heure, à 15h, à la place Jean Massé, on peut aller se regrouper en soutien à la Palestine, au peuple palestinien, face à l'occupation israélienne et aux violences journalières et répétées de l'armée israélienne de Tsahal. C'est demain, le 30 mars, à 15h, place Jean Massé.
Et donc demain, il y a vraiment énormément de choses. Hein. Si vous vous ennuyez, c'est vraiment qu'il y a un souci. Du coup, il y a une soirée. Il y a une autre soirée que la soirée d'ouverture du printemps libertaire. Il y a une soirée de soutien à une émission de Radio Canu qui est Visage d'Amérique latine. Et donc voilà. Donc en fait, ils font un petit peu une soirée, c'est parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'ils sont à la radio. Donc c'est un samedi sur deux, pour rappel. Et donc là, la soirée aura lieu demain, entre 18h et 23h. Il y aura des groupes. Donc il y aura Francia Manta, Gabriella Sabino et Yawar Massi. Donc ça va se passer à l'atelier des canulars.
Et l'atelier des canulars, c'est où ?
Et l'atelier des canulars, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il faut... L'atelier des canulars, c'est 91 rue Montesquieu.
Et effectivement, gros dilemme, puisqu'aller soutenir Radio Canu ou soutenir aussi Radio Canu, c'est compliqué. Mais Radio Canu est partenaire du festival Printemps Libertaire qui fait son ouverture demain. Alors venez faire la fête pour ouvrir en beauté ce festival du Printemps Libertaire sur place demain soir, à boire, à manger et beaucoup de musique. Puisqu'en première partie, on aura Fred Alpi qui vient faire une lecture-concert acoustique du roman autobiographique qu'il a rédigé qui s'appelle 5 ans de métro. Et en deuxième partie, on retrouve les De Soda Sisters dont on vous a parlé à l'instant. Donc un trio féminin de chansons anarchistes et populaires de la tradition toscane et du sud de l'Italie pour faire la révolution en dansant. C'est demain soir à partir de 19h30 dans un petit lieu commercial qui s'appelle de l'autre côté du pont, c'est la Guillotière, en gros, cours Gambetta, pas très loin du Rhône.
Voilà, et qui dit printemps libertaire dit printemps, et qui dit printemps dit fin de la trêve hivernale. Et du coup, il y a un rendez-vous qui est donné donc, le dimanche 31 mars. Donc pour une manifestation contre toutes les expulsions, donc ça aura lieu à 10h45 au métro Charpennes à Villeurbanne, donc voilà, pour dénoncer la fin de la trêve hivernale.
Et pour continuer de dénoncer la fin de la trêve hivernale et pour soutenir un lieu qui est menacé par la fin de cette trêve, à l'occasion de l'anniversaire des 15 mois de l'occupation de l'Amphiz, eh bien vous êtes invité à poursuivre la manifestation de dimanche par une grande fête qui se passera à l'Amphiz. L'Amphiz, vous trouverez évidemment ses coordonnées sur rebellion.info.
Et ensuite, le dimanche soir, qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde un film et du coup, il y a une projection à l'Amicale à 19h du documentaire « Enfermé mais vivant ». Et l'Amicale, je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est rue Sébastien Griff, mais...
Ouais, c'est quelque part rue Sébastien Griff.
J'ai pas le numéro non plus.
Voilà, donc là, ça sera la fin du week-end, effectivement, bien chargé, mais ça continue à partir du 1er avril, sans aucune blague dans les annonces qui suivent. D'abord, le 1er avril, à 18h, il y a un rassemblement contre la PAF. Donc la PAF, c'est la police aux frontières, et ce rassemblement sera sur la place Guichard, en soutien aux détenus du centre de rétention administrative, donc le CRA, dont on vous a parlé tout à l'heure, de Saint-Exupéry, détenus qui sont nombreux à avoir entamé une grève de la faim depuis le dimanche 17 mars, donc ça fait déjà 2 semaines.
Voilà, et ensuite il y a le rendez-vous hebdomadaire donc de la permanence juridique de soutien aux sans-papiers. Donc c'est une permanence qui a lieu entre 18h30 et 20h à la Lutine, donc qui est quasiment au même endroit que l'atelier des canulars, puisque c'est aussi au 91 rue Montesquieu.
Voilà, donc on arrive au mardi 2 avril, et là le printemps libertaire se poursuit avec une rencontre avec Alberto Prunetti, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Amianto, une histoire ouvrière, aux éditions Acon, un excellent livre que j'ai eu l'occasion de parcourir. Et donc c'est à la librairie Terre des Livres le mardi 2 avril à 19h pour discuter de la condition ouvrière et des impacts méchamment violents pour la santé que peut avoir l'amiante. Donc Terre des Livres, c'est toujours rue de Marseille.
Ensuite, le mercredi 3 avril, mercredi plutôt soir, il y aura une projection d'un documentaire qui s'appelle « Des spectres hantent l'Europe ». Donc ça, ça va se passer à 18h au ciné Rieu. Donc ça raconte les conditions très difficiles de vie quotidienne dans le camp d'Idoménie au nord de la Grèce. Et donc voilà, donc ça, ça sera suivi aussi d'une rencontre débat donc, avec les acteurs des luttes lyonnaises autour de la migration.
Et puis toujours mercredi 3 avril à 19h30, place des Terreaux, il y a une manifestation en soutien aux grévistes de la faim kurdes, grévistes de la faim qui exigent leur régime d'isolement qu'Erdogan, donc le président de la Turquie, a mis en place avec le soutien, c'est-à-dire le soutien par le silence des institutions européennes.
Le jeudi 4, donc ça c'est toujours dans le cadre du printemps libertaire, et il y aura donc à Librairie La Griffe à partir de 19h une présentation de la revue Réfraction, donc notamment du numéro 41 de la revue Réfraction, donc qui est une revue de recherche et d'expression anarchiste. Ils se disent discret, secret, clandestin. Voilà, donc ça c'est le jeudi 4 avril à 19h à La Griffe.
Et puis, on finit cet agenda avec une dernière information concernant Canu, puisque jeudi 4 avril, c'est aussi Mégaphone, donc Mégaphone, qui est l'émission en soutien aux prisonniers et prisonnières de Lyon. Laisser des messages téléphoniques aux détenus de la région lyonnaise. L'émission La Petite Cuillère sur Radio Canu de 20h à 21h, les premiers et troisièmes jeudis du mois, diffuse des messages aux détenus de la région lyonnaise. Vous pourrez trouver tout un tas d'informations sur le site du Printemps Libertaire, sur celui de rebellion.info. En attendant, il est 20h01. On vous laisse après ce magnifique Canu Info d'une bancalité exquise. À la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Noise Pollution.